Oui, je pense en effet que ce qui se passe peut-être dans le numérique, et ça fait 2 jours qu'on discute de vraiment la cohérence très très forte entre cet héritage aussi de la poésie concrète et ce qui se passe dans la littérature numérique. C'est une évidence, et je crois que ce qui se rajoute peut-être dans la poésie numérique, mais c'est aussi de l'ordre de l'icône, hein, c'est le mouvement, hein, et peut-être le geste, hein, la manipulabilité. Et les deux, je les considère vraiment aussi dans leur caractère d'icône, comme toi tu le fais pour l'image du texte, hein, la typographie. Donc c'est juste 2 ouvertures, mais ce que je trouve personnellement très fascinant, c'est que en fait, lorsque c'est vrai que notamment nous dans notre groupe de recherche, on se concentre souvent sur ces aspects du mouvement, de la manipulabilité, mais on laisse de côté les aspects typographiques qui sont pourtant tout aussi fondamentaux. C'est pour ça que là, ça me paraît vraiment très très convergent. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que évidemment, cet exposé était tellement jouissif et nous inviter à une telle jouissance que j'ose presque pas poser ma question, mais je la pose quand même. Et c'est en fait, je crois que c'est vrai que cette idée que, notamment d'après ce que tu as exposé de Bremer, de dire, ou aussi de la poésie concrète allemande, de dire que la langue est fasciste. Je paraphrase évidemment Barthes, et de dire donc du coup on se penche plus sur l'aspect graphique ou sur la visibilité de la langue pour échapper à ce fascisme, hein, et en même temps infiniment séduisante, et en même temps j'ai envie de dire mais la typo est fasciste aussi, ou peut être fasciste aussi. Et c'est vrai que tu as fait allusion aux lettres gothiques. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vois des lettres gothiques dans la rue, personnellement, avec mon répertoire culturel d'allemande, hein, je ne peux pas m'empêcher de penser immédiatement à tous les abus de la lettre gothique, notamment par le fascisme allemand. Hein. Et donc, je voulais juste rajouter cet aspect, hein, que en fait, voilà, la typo peut être aussi infiniment chargée d'un répertoire culturel et qu'elle ne nous permet peut-être pas vraiment à échapper au fascisme de la langue.
Je peux y aller là?
Oui.
Alors, ça tombe très bien parce que bon, moi je suis passé, enfin dans mon parcours biographique, on a chacun le sien, de l'art d'avant-garde à l'art hyper populaire. Donc, je viens de terminer la rédaction d'un livre sur l'utilisation du caractère gothique dans l'espace urbain européen. Et parce que, comme toi, baigné dans ce que tu as appelé le répertoire culturel allemand disponible, hein, pas visible, ça m'a fait frémir de voir, notamment 10 ans après la réunification de l'Allemagne, que dans des coins touristiques, on utilise comme ça le gothique impunément. Bon. Le gothique n'est pas né en Allemagne, mais il sert de révélateur, puisque j'ai essayé de le montrer tranquillement, hein, c'est-à-dire que c'est une bombe à retardement, on va dire, mais qui est pleine d'enseignements. Hein, alors j'en ai perdu à force de faire des phrasettes, là, mon idée. C'est-à-dire, je disais qu'il servait de révélateur, parce qu'on est obligé de se poser la question. C'est une exhibition de la paragraphie de l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a un tel excès maintenant, hein, on juge ça aujourd'hui, hein, et on peut avoir le jugement rétrospectif. Il y a une fascination jubilatoire pour la forme. C'est un excès de forme, c'est une exubérance graphique. Hein, je crois que je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit à propos de la petite lettrine, où c'est le pied. Enfin, je veux dire, moi, mes étudiants, c'est le pied quand ils peuvent faire des volutes et tout le fourbi. Il y a cette part-là qui n'est pas à négliger. Alors, après, pour ce qui est de l'instrumentalisation du caractère au profit d'un usage qui ne cède pas le territoire, hein, c'est-à-dire qui ne laisse pas la place à son quart d'heure, parce que c'est ça la différence fondamentale entre une typo entre guillemets fasciste et une typo non fasciste, c'est que dans une typo fasciste, c'est pas juste la typo, hein, c'est l'association langue typo support contexte etc. On a tout est réglé, hein, c'est-à-dire que c'est le ce que j'ai appelé la monovalence rigidifiante. Hein, il n'y a pas d'ambiguïté. Et encore, on peut même s'amuser à mettre ça en question. Je ne vous ai pas montré d'autres exemples parce que j'ai voulu rester cohérent. Donc on peut faire tout exploser. Mais néanmoins, ça sert de révélateur parce que donner du sens à une forme, ça n'est possible que par le biais d'une projection fantasmatique. Vous avez compris mon petit jeu tout à l'heure, là, quand j'ai fait le petit préambule. C'était juste... vous montrer qu'on était dans le cœur du sujet à chaque fois qu'on a des échanges dans ce type de rencontres. Hein, on est là, j'ai vu d'ailleurs, c'est numérique, donc l'alibi est extraordinaire. Je veux dire, on a le code INRP 2005, on peut voguer. Bon. Maintenant, il y a une espèce d'extéritorialité de la divagation. C'est assez intéressant, c'est aussi ça que permet le support numérique. On est là tout en n'étant pas là, on est toujours ailleurs. Enfin, le numérique ne fait que l'office de révélateur, parce que toujours ailleurs. C'est très très rare d'avoir une communication, peut-être en a-t-on une aujourd'hui, là, ici, maintenant, j'en sais rien. Et donc, cette histoire de révélateur, c'est intéressant parce que j'ai, dans mon analyse, j'ai bien compris que avec le gothique, comme avec n'importe quel type de photographie, de typographie, on peut tout dire. C'est-à-dire que le charcutier, quand il utilise sa gothique, il n'est pas nazi, même s'il est un peu conservateur. De même, le néo-nazi, bon, il peut aimer la saucisse, mais et la bière. Et je me suis servi, en fait, d'un... Là, je peux vous dévoiler le scoop. En fait, d'un terrain d'utilisation qui est paradoxal. Enfin, si je vous posais avant la question, dans quel secteur pensez-vous qu'on n'utilise pas le gothique ? Aujourd'hui, dans l'espace urbain, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous viendrait en tête ? Parce que c'est plus simple de poser la question plutôt que de servir tout sur un plateau. Il y en a certains, peut-être parmi vous, qui, comme moi, avant d'aller dans le centre d'études de l'écriture, hein, d'Anne-Marie Christin, ignoraient toutes ces questions. Moi, j'ai baigné dans la littérature, j'ai plongé, j'en suis devenu un peu myope, et néanmoins, j'ai jamais vu la visualité de l'écriture. C'est quand même un paradoxe. Donc, dans toutes nos institutions, prestigieuses ou non prestigieuses, c'est un épiphénomène. Enfin, ça sert à rien. Pourtant, c'est le véhicule. Alors, j'espère que le numérique nous permettra d'en prendre conscience, parce que c'est peut-être ça la chance. Hein. Même si ça favorise l'aspect ludique, le déchaînement ludique dont parle Didier Maman, parce que c'est ça, c'est le pied là. On peut faire tout et n'importe quoi. C'est formidable. Et moi, je suis pour le vernaculaire à fond, hein, puisqu'il fait toujours office de révélateur. Parce que la professionnalisation, ça a quelque chose d'un peu exigu. Alors attendez que j'en revienne à mes moutons. Un secteur, je vous ai posé une question. Est-ce que vous imaginez un secteur où on ne pourrait pas utiliser le gothique a priori ? Je parle dans l'espace urbain, hein, je parle pas. Le livre, c'est foutu, c'est fini, à part chez Jean de Bonneau, pour mettre en vitrine sous clé. Ah, ben, la politique, alors ça dépend du terrain, mais même en France, je pense qu'à Lyon, il devait y avoir des petits groupes néo-nazis qui s'activent, la Légion 88.
Non, je pense aux affiches publicitaires, enfin, les grands placards publicitaires.
Oui. Oui, mais là on parle de support, donc moi je dirais un domaine, un secteur, bon, c'est le domaine publicitaire aborde tout, le support publicitaire accueille, hein, il suffit de payer n'importe quel type de message. Donc on peut très bien envisager du gothique. Par exemple, je pense qu'il y avait une biennale d'art contemporain à Lyon il y a quelques années. C'est arrivé demain. Demain, c'était écrit en gothique. Évidemment, dans l'art contemporain, on provoque un peu. Hein. Bon. La signalétique des villes. D'accord. Effectivement, là, ça c'est... C'est terminé. D'ailleurs, c'est l'exemple qu'on donne. C'est historique, ça. C'est un passage historique. Enfin, c'est terminé. C'est passé à la trappe. Il n'y a plus que des restes. Hein, en Allemagne, il y a des reliefs. Ça a permis à un internaute belge, d'ailleurs, de se vautrer, puisqu'il dit, ah ben tiens, à Berlin, on voit pour les stations de métro, ça fait un peu partie de la signalétique, la plaque de métro, on peut voir quelques plaques en gothique avec un gothique super constructiviste, fonctionnel, lisible, etc. Je propose, comme alternative à la dictature de l'Helvetica, de recourir à cette forme qui est dans l'espace public existant. Il donne un exemple sur son blog ou son site formidable. Enfin bon, ceux qui connaîtront l'endroit frémiront d'avance. Il inscrit, donc il choisit comme par hasard. Alors, c'est peut-être qu'il veut nous piéger. Hein. Bon. Moi je l'allume pas mal, mais c'est donc la station de métro Wannsee. C'est pas mal de proposer Wannsee avec la conférence du même nom. Comme exemple phare d'un revival complet du gothique. Donc, je suis d'accord, hein, ça, au niveau de la signalétique urbaine, ça, en France, on a utilisé beaucoup à une certaine époque. Hein, c'est des exemples classiques, effectivement, de 40 à 44. Il y avait de la signalétique en gothique dans l'espace urbain français, mais c'est un secteur, mis à part cette coquetterie belge, donc non. Non, moi, j'ai utilisé le secteur de l'érotisme. Ah, donc, je ne suis pas un fréquentateur de sex shop ou de cinéma porno, mais c'est vrai qu'à Pigalle, à Paris, bon, maintenant c'est fini, ils ont tout rhabillé, ils avaient utilisé le gothique. Et ça m'a questionné, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que vient faire le cinéma porno avec le gothique? Bon, et puis, vous lirez le livre peut-être, je ne vais pas vous dévoiler la clé, mais... Hein? Donc on peut aussi s'exhiber pornographiquement avec le gothique, tout est envisageable. C'est tout ça pour dire, pour répondre à ta question, hein, qu'effectivement l'histoire du répertoire culturel de l'enfance ou de l'adolescence ou de l'âge adulte, ça nous donne des projections fantasmatiques qui nous orientent et qui induisent donc un point de vue dont on infère un certain nombre de considérations, mais... Ma conclusion, elle est simple. La forme typographique, je ne vais pas dire qu'elle reste intègre, mais elle n'a que faire, finalement, de ses instrumentalisations. Mais ça, je fais de la personnification à bon compte.
Hein. Justement, c'était la question que vous me posez aussi. Est-ce que vraiment, est-ce que ce n'est pas un rêve de séparer, de dissocier complètement la forme typographique de la parole, oui, mais de la langue, oui, mais de toute idéologie ou de toute, à mon avis, dès qu'on regarde, dès qu'on a une certaine sensibilité, plus ou moins consciente d'ailleurs, à la forme, à la visibilité de la lettre, il se met en marche tout un imaginaire, et au fond, la lettre reste asservie à un sens, alors à un sens, pas une langue, à un sens.
La forme, tu veux dire ? La lettre comme forme.
Oui. Elle reste quand même toujours asservie à quelque chose. Alors ça peut être une idéologie, ça peut être une culture, ça peut être une vision poétique du monde, un imaginaire. Voilà. Mais oui. La question du pouvoir, elle dépend de quel côté on est. C'est-à-dire si c'est celui qui a créé la forme pour une manipulation, ou si c'est simplement le lecteur qui extrapole, qui... Voilà,
je pense, comme tu le dis, c'est un tout. Hein, c'est-à-dire, on peut pas dissocier la forme du reste. Hein. Mais, alors, parce que quand Alexandra parle de typographie fasciste, hein, bon, je ne sais pas si vous connaissez le caractère Futura, hein, employé dans l'espace urbain, il est encore visible dans l'espace urbain romain. Hein, moi, j'ai fait tout un livre là-dessus. Ça fait un drôle d'effet de voir Mussolini Dux en Futura. Hein, parce que il faut quand même avouer une chose, les fascistes ont un avantage sur les autres, hein, enfin sans cynisme de ma part, c'est qu'ils savent très très bien ce que c'est que la manipulation et ce qui est efficace. Donc
il y a une vraie réflexion justement totalement. Sur la visibilité de
totalement.
La lettre,
totalement. Ah ben oui, c'est
voilà,
bien sûr.
Simplement, c'est intentionnel, voilà. Et puis quand on est de l'autre côté, alors ce qui est intéressant dans la poésie concrète ou dans la création numérique, c'est que il y a une espèce de provocation de la lettre qui se donne à voir. Oui. Et qui déjoue justement toutes les stratégies de manipulation parce que elle donne à voir ce qui n'est, enfin, elle donne à voir des choses qu'il n'y a pas à voir. Enfin, elle désoriente, elle désoriente l'interprétation. Et c'est ça qui est intéressant.
Oui, oui. Bah, c'est-à-dire en fait, elle te donne de la place. Parce que la différence entre pouvoir et autorité. Hein.
Elle suscite de l'interprétation.
J'aurais dû appeler ça enjeu d'autorité. Enfin non, enjeu de pouvoir, puisque c'est un abus de pouvoir, bien sûr. Hein. Donc la typographie de style fasciste, ou bien instrumentalité pour des fins fascistes, c'est une typographie qui, contextualisée, hein, donc dans un usage et dans un contexte environnemental, ne te donne aucune alternative. Donc à partir du moment où après, je ne sais pas si la preuve, cet internaute belge, il est de bonne foi, c'est sympa, je veux dire, il se dit, il en a marre de voir toujours le même type de caractère, donc il est pas, tiens, voilà, il est allé à Berlin, c'était sympa, il se dit, tiens, voilà, c'était utilisé, donc en fait, il paradoxalement, il met en œuvre la deuxième procédure de sémantisation possible d'une forme typographique, qui est l'usage. Hein? Ah ben il l'a vu, donc c'est possible, mais il ne problématise pas, il ne recontextualise pas historiquement. Mais c'est possible, on a fait ça, toute l'histoire de la typographie, c'est ça. Hein?
Ouais. C'est vrai que la question de la typographie, on la connaît pas très bien finalement, parce que dans le séminaire croisé entre écriture et photographie qu'on fait avec Arles, on fait intervenir un typographe et il fait un cours d'histoire de la typographie, et la majorité des élèves utilisent des polices sans savoir son histoire, son contenu. Et moi-même je suis pas spécialiste, donc je me rappelle plus quelle police il avait. Le typographe Mathieu Corta qui fait le séminaire nous a expliqué, mais par exemple, là on parle de polices comme le gothique, etc., qui sont vraiment très lourdement marquées idéologiquement, mais tous nos sites institutionnels sont faits par une police qui a été créée pour instituer le règlement, le respect. Alors je ne m'en rappelle plus le nom de cette police, mais les sites institutionnels, Internet, oui, celui de l'ENS, l'ENSP, celui des ministères, etc., utilise une police qui a été créée pour marquer une sorte de respect du cadre, du règlement. Donc c'est très intéressant, parce que là, c'est presque dans l'inconscient, parce qu'on ne sait pas du tout tout ça, cette histoire des lettres, pourquoi. Et c'est très fin en même temps, parce que c'est vraiment une des polices qui ressemble à Times, à Arial, très, très passe-partout, mais finalement qui implique un regard très conditionné et très, très respectueux des normes.
Moi, je... Oui, bien sûr... Je voudrais juste rebondir, je ne sais pas si vous savez quel est le héros de la commémoration nationale 2010-2011, 2011-12, hein, c'est ça, oui, on est en 2012. Hein. Après Dreyfus, alors je ne veux pas dire de bêtises, je pense que c'était Zola, là, qu'on a dû fêter l'année dernière. Ah, cette année, c'est Rousseau. Bon, alors donc c'est fini. Alors, on m'a dit non, ils s'y sont pris vachement tard alors, pour lancer leur site. Hein. Donc c'est 2011. Qui a-t-on honoré en 2011? Je pense que personne ici ne le sait. Moi, je ne le savais pas avant d'aller à une petite rencontre de ce type. Garamond. Donc Garamond, le grand Garamond, hein, celui dont on sait tout, hein, c'est-à-dire sauf exactement son âge, hein, enfin l'âge qu'il avait quand il est né, puisque on l'a fait naître maintenant, là, 20 ans après. Ce qu'on a cru pendant des siècles, c'est une drôle d'histoire de manipulation, tout cela. Donc c'est vrai que le Garamond, ça a un style du respect, hein, pour les lettrés. Demandons à notre ami Gallimard. En passant, pour faire une pirouette, j'ai un copain qui est responsable de la Pléiade, là, et qui m'a dit ouais, « c'est super le passage au digital, parce qu'on a pu en caser encore plus qu'avant, dans la page ». Je ne sais pas si ça vous dérange quand vous lisez une page de la Pléiade. Donc, vive le passage au digital. Le passage au digital, là, ta question me fait rebondir sur autre chose. C'est aussi mais là, on est en train d'évoluer, d'après ce que j'ai compris, un réductionnisme pour ce qui est du web. On est contraint, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et là, finalement, il semblerait que le graphiste typographe reprenne la chose en main, et qu'on est maintenant concrètement pour l'utilisation de caractères typographiques dans des sites web, davantage de possibilités qu'autrefois. Il est intéressant, moi qui viens des sciences humaines, j'ai évidemment publié ma thèse en Times New Roman, hein, puisque c'est la police par défaut. Mais vous imaginez bien qu'en 1985, quand j'ai commencé à taper, et quand j'ai fini en 1993, je tapais toujours dans le même caractère. Je n'avais même pas regardé, moi, qu'il y avait une petite liste, parce que j'étais vraiment linguistico-centré. Donc, il y a beaucoup d'universitaires, et d'ailleurs, c'est ce qui fait office de révélateur. Alors, il ne faut pas y voir forcément quelque chose de déplacé ou de gênant, mais utilise ce fameux caractère, parce que, bon, bah, il est pratique. Alors, qu'il soit utilisé à contre-emploi, finalement, on s'en fout, mais puisque c'est ça aussi le vernaculaire. Hein. Et puis, quand la secrétaire est obligée de taper d'une institution prestigieuse, peut-être comme celle-là, quand les chiottes sont bouchées, faut bien, on va pas faire appel à un signaléticien, donc on fait, tiens, chiottes bouchées. Enfin, c'est pas ça qu'on dit. Hein. Ici, j'ai remarqué, on dit salle gradinée. Hein. Alors, c'est dans l'autre bâtiment, là. Moi, ça m'avait frappé lors de l'inauguration, la salle gradinée. Et là, le caractère est gratiné. Donc c'est le vernaculaire hein, qui triomphe. Donc on a une signalétique en Times New Roman, ça dérange personne. Donc il y a une prise de conscience de toute façon, parce que je pense que ce qui est le plus important dans la période numérique, c'est ça, c'est la jubilation. Hein. Enfin, tu parlais de jouissance, c'est jouissif de voir brusquement, enfin déjà que c'était jouissif de taper sur sa petite machine et puis de voir boum boum boum. Hein, je ne sais pas si vous connaissez la hein. Oui. Alors ça, par exemple, le passage au numérique permet justement de susciter ce genre de prise de conscience. Alors je ne sais pas si ça a des effets collatéraux, mais si on réfléchit à ce que ça signifie que l'image textuelle, enfin nos copains, oui, là, bien sûr, ils problématisent ça depuis des années, mais le public commun, enfin nous, hein, on est tous des individus normaux, on n'a pas été formé, moi j'ai jamais été formé dans une école de graphisme, donc c'est des problématiques que j'ai trouvées saisissantes, parce que j'y ai trouvé aussi le biais. Parce que c'est assez difficile de travailler pendant des années sur un sujet de thèse concernant une pratique poétique. Vous avez vu, là, j'ai sujet à polémique. Hein. Et il ne s'agit pas pour moi, quand on me dit, quand le poète me dit c'est à bas la dictature du moi, moi je ne vais pas venir et lui fourguer mes tombereaux de subjectivité. J'ai trouvé dans le biais typographique le biais idéal pour objectiver ce que j'appelle l'émancipation critique. Hein. Hein, j'ai vu des topos donc de grands professeurs américains, parce que c'est aussi un peu des travers de chaque secteur géographique, instrumentaliser le poème concret de ce type hein, pour raconter mais des salades hallucinantes et le public gobe, formidable, sans prendre en compte du tout l'inscription, c'est-à-dire l'inscription d'une affiche, enfin ça revient à une affiche typographique, ça tient pas la route pour eux. De même, j'ai pu constater, et ça a été pour moi un peu un choc, que ces gens-là dont je me suis occupé n'avaient absolument aucune conscience de la visualité de la forme. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à toutes les concessions. Quand on vous propose une publication dans une petite revue, dans une grande revue, dans un beau livre, dans un grand livre, dans un livre chez un éditeur fameux ou grand tirage, bah, vous dites quoi ? Banco ? Et l'intégrité là, de votre texte visuel ? Alors, moi, j'ai écrit il y a très longtemps un article sur les variations typographiques de la poésie concrète qui est un paradoxe. Parce que normalement, on devrait avoir une image figée. On devrait demander à tous ces poètes de figer dans le marbre. Comme ça, c'est bon. Et non. Donc c'est exactement le principe que tu décris avec l'usage vernaculaire. Même pour un poète qui se fait fort de glorifier le visible, en fait, non. Ça lui est égal. Il reste piégé par son imaginaire puisqu'il reste un poète. Et donc le poète, la disparition, tout le fou. Hein, on l'a vu hier. Non. Hein, je suis là, diablement là, et même si en 53, en Allemagne, c'est pas évident de dire encore moi, hein, chacun a ses manies, on les reconnaît tout de suite, c'est-à-dire même l'objectivation par le biais typographique, c'est du pipeau.